Et oui, on est là jusqu'à 10h avec vous à Boulevard Against le matin. Par la suite, Pascal CV, l'heure CV 10 à 11. Yannick Marceau. Marceau le midi, 11 à 14h. Et le retour de Gravel avec Denis Gravel, Véro Bergeron et Audrey Pinchot. Ils seront là de 14 à 18h. Et ce soir, c'est vendredi 18 à 20h sur mon émission favorite. Sur les ondes de Boulevard 101, le garage à Dan Caron. Je me fais toujours un bonheur de l'écouter.
Fait que toi, la semaine, le volume au max à 19h, ça te fait pas un pli.
C'est après le garage à Dan, okay. Je m'excuse.
Numéro 2 des émissions préférées de Jeff à Boulevard.
Numéro 2 des émissions préférées de Jeff à Boulevard, c'est clair.
Je suis capable d'être un numéro 2.
T'es capable, derrière Dan Caron, la légende,
ben,
j'espère
un peu
donc.
Ça,
ben oui, j'espère donc que t'es capable d'être un numéro 2. On va rejoindre à l'instant même Rémi Villemur, chroniqueur politique sur les ondes du 99.5 Montréal. Va sûrement avoir une petite chronique les ondes de Boulevard 101 aussi dans cette belle nouvelle programmation qui sera annoncée parce que c'est un gars très politisé qu'on adore. Rémi, comment ça va?
Ça va très bien, vous-même.
Ça va super bien. Merci de ta participation ce matin, Rémi. On apprécie grandement. Rémi, on saute dans le sujet. François Bonnardel hier à la commission Galant. Est-ce que tu es du même avis que Gaétan Barrette qu'on est dans une semaine de demi-vérité, donc de demi-mensonge en même temps?
Moi, je pense pas que François... Ben, écoutez, là, après, je connais pas personnellement François Bonnardel, là, mais sur la base du témoignage qu'il a offert hier, je pense pas qu'on soit dans des demi-vérités ou des demi-mensonges, mais je pense pas qu'il s'en sort forcément mieux. C'est-à-dire que je lis là, beaucoup ce qui est rapporté ce matin. Il y a déjà des chroniques à son sujet, des rapports, des points de vue qu'on fait par rapport à son témoignage. Puis les gens, ils disent, ben, tu sais, il s'en est bien sorti. Tu sais, il a pas été éclaboussé. Il a pas semblé.
Oui, j'entendais ça hier soir, immédiatement après son témoignage. J'écoutais les différents réseaux d'informations en continu. Puis moi, j'ai écouté une très, très large partie de son témoignage en direct et je me disais, je suis vraiment pas d'accord parce que je le sais pas. Pour moi, c'est inacceptable quand tu es un ministre.
Ben, tout à fait. C'est que la fameuse phrase, là, ben, il y en a plusieurs là, phrases quand même à retenir, mais « si c'était monté jusqu'à moi ». Donc, il a dit ça deux fois, « si c'était monté jusqu'à moi ». Je ne le savais pas, on ne m'a pas averti. Moi, ça me rassurait les chiffres, les faux qu'on me donnait. Ça, c'est pas semblé faire en sorte qu'il puisse retourner chez lui puis s'en laver les mains. Puis je dis pas qu'il s'en lave les mains, mais pour certains analystes qui sont revenus sur son témoignage, ben, il s'en est bien sorti, mais non, je suis désolé, mais si t'es ministre des Transports, c'est censé monter jusqu'à toi. Si ça monte pas jusqu'à toi, t'es censé aller chercher l'information plus en bas. T'es pas censé te contenter de certains rapports qu'on te fait, d'un manque de rapports qu'on te fait. Tes conseillers sont censés te faire part des échanges de courriels. Peut-être pas tous les courriels, soyons pas naïfs, mais c'est un gros dossier. C'est des centaines de millions qui sont impliqués. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui le rend quand même coupable par association d'une certaine façon. Si d'autres personnes en bas de lui étaient au courant et que lui ne l'était pas. Tu sais, il est sorti de... C'est un long témoignage qu'il a fait hier. Il est rentré vers 14h. Il est sorti vers 10, presque 18h.
Oui, exactement. Ça a dépassé le fameux 17h habituellement, là.
Ouais. Puis, tu sais, il a pas donné de temps au journaliste. Il était fatigué, mais il a dit quand même, je souhaite ne plus jamais revoir ce qu'on a vécu pour les Québécois. Ça, c'est une banalité, là. Je veux dire, évidemment qu'il va plus jamais falloir revivre ça, mais il va falloir aussi qu'on aille encore plus au fond des choses. T'sais, là, on me dirait, ben là, ben, il y a une commission d'enquête, on est en train d'aller... Ouais, mais c'est pas suffisant. Un ministre n'est pas censé pouvoir dire que des choses ne sont pas montées jusqu'à lui. C'est pour ça qu'on a un ministre. C'est pour ça qu'il y a quelqu'un qui est au sommet de la montagne. C'est pour qu'il puisse voir tout. Quand vous êtes au-dessus d'une montagne, vous voyez tout en dessous de vous.
Justement, avant même le témoignage de François Bonnardel, avec les autres témoignages qu'on a eus cette semaine, je disais, hey, pour vrai, peu importe ce qui se passe avec le témoignage de Bonnardel, ce gars-là peut plus être ministre. Il pourrait s'en sortir à merveille dans son témoignage à lui, là, de je sais pas quelle façon, ce gars-là ne peut plus être ministre. Est-ce que tu es d'accord?
Ben, écoute, il y a un remaniement qui s'en vient dans les prochaines heures. Je pense qu'il peut demeurer ministre dans la mesure où c'est pas... Je pense pas que le scandale en ce moment...
Tu me surprends avec ta déclaration. Je pense qu'il peut continuer à être ministre parce que moi et Max, on pense qu'il peut pas. On a parlé à Lambert Drainville cette semaine qui était du même avis. Donc, explique-moi pourquoi tu penses qu'il peut être ministre?
Ben, parce que c'est quelqu'un qui a quand même fait preuve dans les dernières années d'une grande capacité à prendre en main des dossiers... Je pense que c'est un des gros piliers du gouvernement Legault. Je sais qu'il y a de plus grandes chances qu'il ne le soit plus, hein, parce que je ne pense pas que c'est ça la question de Max. Max, il me demande est-ce qu'il peut être encore ministre, mais est-ce qu'il va l'être? Ça, c'est une autre question. Tu sais, probablement qu'il ne le sera pas, probablement que François Legault, de toute façon, n'a plus le luxe de se poser des questions de cette trempe-là. Il a juste besoin de bien paraître, de mieux paraître, puis ça fait 20 mois qu'il paraît mal, donc probablement qu'il sera plus ministre. Mais moi, je ne pense pas que la façon qu'il a géré ce dossier-là, ça fait en sorte qu'il ne le soit plus. Je pense que n'importe qui dans une machine grosse de même, il peut pas vraiment tout voir aller. Puis c'est ça le problème. La machine est trop grosse. On va passer à côté du procès de la machine. Ce qui est censé être assis devant Denis Galland, là, c'est la machine.
Fait que tu
La
blâmes
machine.
la machine plus que François Bonnardel lui-même, c'est ça que je comprends?
Tout à fait. Il y a trop de fonctionnaires, il y a trop de morceaux dans cette machine-là. C'est pour ça que n'importe qui serait en mesure de dire, j'ai rien vu passer, c'est passé sous mon nez, on m'en a caché des affaires. Puis en même temps, François Bonnardel nous disait hier, puis là, ça m'a comme amusé, il a dit, ça va très vite au ministère des Transports. Moi, j'ai écouté ça, j'ai dit, ah ouais, ça va si vite que ça, on dirait qu'il n'y a rien qui avance pourtant. Mais non, mais
La ligne bleue à Montréal, le prolongement de la ligne bleue du métro, le tramway à Québec, les routes qui sont en décrépitude. En effet, il n'y a pas grand-chose qui avance au ministère des Transports.
tu sais, c'est parce qu'on se pose souvent des questions, tu sais, ah, OK, il a été éclaboussé, il faudrait qu'il soit plus ministre. Mais dans les faits, je pense que c'est un gros pilier du gouvernement Legault. Il est bon, il a touché à plusieurs dossiers, ça fait longtemps qu'il est là. Va-t-il encore l'être? Le plus gros défaut de François Legault, c'est aussi sa plus grande qualité, c'est la loyauté. Donc, il est capable de garder François Bonnardel en poste parce que c'est quelqu'un qui est dans l'environnement de la CAQ depuis l'ADQ, quand même. Hein. François Bonnardel, quand je dis que c'est un gros pilier, c'est aussi au niveau de l'expérience et de la réputation. On verra bien. Mais ça paraîtrait mieux, effectivement, Max, qu'il perde son portefeuille.
Je reviens sur la responsabilité ministérielle. Moi, je suis tombé à bas de ma chaise hier de savoir que François Bonnardel et Éric Kerr ne se sont jamais parlé de cette transformation numérique-là, la plus grande de l'histoire du Québec. Ça fait pas de sens pour moi que les deux têtes dirigeantes ne se parlent pas. Es-tu d'accord avec moi?
Ben oui, c'est sûr, absolument. On comprend. Il n'y a pas eu de question non plus de Denis Galland sur le niveau de dialogue ou en tout cas les informations qui ont été transmises entre Guilbeault et Bonnardel
En
aussi. Ça, on ne
effet.
sait pas ce qui s'est passé,
Est-ce que tu
mais
penses
en même
qu'on va le
temps.
savoir aujourd'hui avec Geneviève Guilbeault qui va se présenter à la barre?
En tout cas, ça a été reproché à Denis Galland de ne pas avoir posé la question à François Bonnardel. Donc, si M. Galland fait autre chose que lire ses livres de Patrick Sénécal quand il rentre chez lui, s'il ouvre un peu la télé, il a entendu dire que ça lui a été reproché. Donc, il va probablement poser la question effectivement aujourd'hui, oui.
Là, il y a certains textos qui ressortent, certains courriels, mais en même temps, on se rend compte que dans bien des rencontres où normalement, il aurait dû avoir un verbatim, il aurait dû avoir des notes de prise, il aurait dû. Et il n'y a pas de traces. Si tu complotises un peu ces bords de peut-être penser que ça se peut possiblement qu'il y a eu des traces de ces rencontres-là à un certain moment, puis qu'il n'y en a plus?
C'est pas du tout complotiste de se poser des questions pareilles. Puis, je veux dire, on a le droit de commencer à penser qu'il y a peut-être quelque chose comme des mensonges, des cachotteries. Conspiration, ça veut ça. C'est un mot qui a mauvaise réputation, mais ça veut juste dire s'arranger pour que quelque chose se sache pas, s'arranger pour que quelque chose se déroule d'une façon à avantager et à cacher des erreurs de notre part. Je pense qu'à la SAQ, c'est de l'ordre de l'évident que d'imaginer qu'on a fait des cachotteries puis qu'on a essayé de s'en sortir. Donc, moi, je crois absolument qu'il y a des gens qui ont voulu jouer avec les chiffres, des gens qui ont voulu effacer des colonnes, qu'il y a des gens qui ont voulu faire en sorte que de l'information circule pas et qu'on s'est ensuite organisé pour que ça ne sorte pas, c'est de l'ordre de l'évident. C'est ça le problème en ce moment. Comment ça se fait que pendant des années, plein de gens compétents, puis je le répète, je pense que M. Bonnardel est compétent, comment des gens compétents n'ont pas pu allumer? Parce que moi, je le croyais hier quand il disait, écoutez, là, on me donne des napperons, on me donne des chiffres, c'est ça passe par toutes les étapes du processus, j'ai d'autres choses à régler. Ça, c'est un problème quand même qu'ils se disent qu'il y a d'autres choses à régler. Mais je suis obligé de faire confiance à ces gens-là. Moi, je le crois quand ils disent ça. Alors, il faut regarder en dessous. Qui a menti?
En effet, mais la problématique avec François Bonnardel, c'est le fait qu'on est devant la plus grande transformation numérique de l'histoire, puis il y a d'autres choses à faire. Ça aurait dû être sa priorité.
T'as absolument raison. Ça aurait dû être sa priorité. Après, au ministère des Transports, là, je pense que, tu sais, quand on parle avec Mathieu Lacombe, qui est ministre de la Culture, lui, il est capable de nous dire c'est quoi ma priorité. Au ministère des Transports, c'est un petit peu moins évident. C'est quoi la priorité du ministère du ministre des Transports? C'est toutes des priorités à plusieurs centaines de millions de dollars. C'est pour ça que je pense qu'il faut être un peu plus indulgent. Je dis pas qu'il faut tout lui pardonner. J'ai commencé en vous disant que je comprenais pas comment ça se fait que quelqu'un pouvait nous répondre ça. Je le savais pas. Mais je le crois quand il me dit qu'il y a plusieurs grosses priorités à plusieurs centaines de millions de dollars.
Est-ce que tu t'attends à ce qu'on en apprenne pas mal plus avec le témoignage de Geneviève Guilbeault ou tu penses que l'essentiel est pas mal sorti puis qu'on commence à avoir fait le tour puis on a compris ce qu'on avait à comprendre ou tu penses que Geneviève Guilbeault va nous arriver avec une bombe pour jeter quelqu'un en dessous de l'autobus parce que je pense qu'elle est capable de faire ça? À quoi tu t'attends de son témoignage?
Bien, je pense qu'elle est capable de faire ça, effectivement, mais c'est une femme brillante dans la mesure où elle sait très bien ce qu'elle a besoin de faire et ce qu'elle n'a pas besoin de faire, et elle n'a pas besoin d'aller beaucoup plus loin. Là, on commence, pour des bonnes ou des mauvaises raisons, à avaler la version du gouvernement, c'est-à-dire, ben écoutez, c'est à la SAQ là, qu'il faut attribuer tous les torts. Nous autres, on est de bonne foi. Nous autres, on fait avancer une grosse machine, puis on fait avec les informations qu'on nous donne. Donc, le témoignage d'hier de François Bonnardel a un petit peu, à mon avis, mis le clou dans le cercueil de la SAQ et a libéré de tout soupçon, enfin, des tout soupçons importants, la CAQ. En plus, c'est très habile hein, de la part de la CAQ. On pointe les libéraux. Puis les responsables de l'époque des libéraux au gouvernement, ils sont à la retraite ou ils sont partis dans des chalets dans le nord, puis tu sais, ils vivent leur vie, puis ils sont plus dans la machine gouvernementale, puis ils n'ont pas besoin de venir témoigner, puis ça passe de même. Puis le Parti québécois aussi, dans l'opposition, dit, ben oui, les libéraux, c'est une bonne idée de regarder dans ce sens-là. Tout le monde haït les libéraux au Québec, fait que c'est parfait. C'est parfait. Non, c'est vrai. C'est aussi simple que ça, des fois. Il faut revenir à la source. Hein. Un gouvernement, c'est une cour d'école. Une société, c'est une cour d'école. Les gens sont bien plus immatures qu'on le pense, puis ils agissent bien plus comme des enfants qu'on le pense. Fait que non, aujourd'hui, Geneviève Guilbeault n'a pas de risque à prendre. Elle n'a pas besoin de changer la direction du bateau. Elle n'a rien que besoin de faire exactement ce que François Bonnardel a dit hier. On ne le savait pas.
Rémi, c'est peut-être moi qui est trop dur avec nos ministres et avec le gouvernement de la CAQ, mais moi, l'imputabilité ministérielle, j'y crois. Tu te situes où à cet effet-là? Parce que oui, la SAC a merdé la transformation numérique. Oui, la SAC a caché des informations. Mais il faut que quelqu'un soit imputable. Et pour moi, tu l'as dit tout à l'heure, c'est la personne en haut de la montagne qui a l'imputabilité. Est-ce que je suis dans le champ si je pense ça? Et c'est pour ça que je me dis, François Bonnardel, il ne peut plus être dans un conseil des ministres.
Non, t'es pas dans le champ. C'est une différence de point de vue. Puis, tu sais, ton point de vue n'est pas complètement fou, là. Je veux dire, c'est d'ailleurs, je pense qu'il est partagé par la majeure partie des gens. C'est juste que j'essaye des fois qu'on sorte de l'image. C'est-à-dire que l'imputabilité dont tu parles, à moins que tu la défendes autrement, là, c'est vraiment de dire il faut que quelqu'un paye. Puis ça envoie un signal. On donne l'impression, ou plutôt la certitude aux gens que c'est pas possible de
Ben,
faire
t'es
ces
pas
erreurs-là.
nécessairement faut que quelqu'un paye, mais quand t'es ministre, faut que t'aies conscience des responsabilités que t'as. Puis s'il y a un projet comme ça qui merde, ben malheureusement, c'est toi qui avais la responsabilité ultime.
Mais pour moi, le vrai problème, c'est la machine. C'est-à-dire, la machine est trop grosse. Puis, tu sais, je vous dis, François Bonnardel, c'est inquiétant qu'il dise « je ne le savais pas », mais je ne sais pas si quelqu'un aurait pu le savoir. C'est-à-dire, c'est ça le problème. Donc, moi, de faire payer quelqu'un qui aurait probablement répondu la même affaire pour les mêmes raisons, puis au nom de la vérité, j'essaie de ne pas aller là. Au même titre, bon, Éric Kerr, c'était très, très, très différent. Éric Kerr, c'était une accumulation. Ça faisait des années qu'on se demandait qu'est-ce qu'il faisait là. Et on savait que François Legault, le maintenant en poste,
Hey, attends, mais
hein,
là, tu
parce
as
que.
demandé des éloges, Éric Kerr, Rémi, là.
Oui, non, ben là, regarde, c'est son problème, là. Éric Kerr, pour moi, tu sais, il fallait qu'il s'en aille. Puis François Legault, par loyauté, a attendu que Éric Kerr lui dise, écoute, je vais sortir du bateau parce que là, tu as l'air fou. Mais bon, concernant Bonnardel, il est ailleurs aujourd'hui. Lui faire perdre la sécurité publique parce que du temps qu'il était au transport, il prétendait ne pas voir les choses. Je sais que ça ferait l'affaire des Québécois. Je sais qu'il n'y a personne qui dirait, puis moi y compris, qui dirait c'est une injustice pour M. Bonnardel, mais je trouve que c'est trop facile. La vraie difficulté, la vraie nécessité, c'est de faire le procès de la machine, une machine trop grosse.
Ben justement, j'allais te poser la question, fait que t'as bien mis la table, mais y crois-tu à ce changement de machine-là? Je me doute bien que ta réponse va être non. En tout cas, tu pourrais me surprendre, puis ce serait tant mieux. Mais est-ce que tu penses que à court terme, c'est possible qu'on prenne cette problématique-là, ce dossier-là, puis qu'on s'y attaque, puis qu'on se dise OK, là, on la change, la machine?
À court terme, non, mais je pense que le simple fait d'en parler, chose qu'on ne fait pas souvent, c'est déjà le début. Puis quand une machine est trop grosse, là, peut-être que je l'exprime mal, mais ça ne veut pas juste dire de mettre dehors des fonctionnaires ou de geler à l'embauche les nouveaux postes de fonctionnaires. Ça veut dire changer les pratiques. Ça veut dire que, il n'est pas censé avoir 25 personnes entre le gars qui est au top de la montagne puis la personne qui est à la tête d'un projet numérique. Entre les deux, là, ben, il est censé ne pas avoir personne ou une personne, pas 25 personnes qui s'envoient des courriels et un ministre qui dit, ben moi, j'ai pas accès à ces courriels-là. Moi, si c'était venu jusqu'à moi, cette phrase-là, ça devrait être le titre de tous les reportages qui rapportent ce qui s'est passé sur cette commission-là, si c'était monté jusqu'à moi. C'est censé monter jusqu'au ministre. Donc, ça veut juste dire de réformer les pratiques, de demander à ce que des communications soient transmises comme ça. Il n'est pas censé avoir 25 interprètes, 25 porte-paroles, 25 intermédiaires. Il n'est pas censé avoir personne entre le numéro 1 de quelque chose puis le numéro 1 de quelque chose d'autre.
Rémi Villemur est chroniqueur politique sur les ondes du 99.5 Montréal. On vient de faire une belle tournée du témoignage de François Bonnardel hier à la commission Galland et de ce qu'attend Geneviève Guilbeault aujourd'hui. Rémi, merci infiniment pour ton temps. J'ai adoré discuter avec toi. Tu me fais aller dans des directions opposées de mes pensées et j'aime beaucoup être challengé comme ça. Donc, merci infiniment. C'est très apprécié.
C'est bon pour la santé. Merci,
hey,
bye-bye.
excellent. Salut Rémi, au plaisir de se
Salut.
reparler bientôt. Salut. Alors, c'était Rémi Villemur qui aura son émission de 18h à 19h sur les ondes du 99.5 à compter du mardi 2 septembre et également émission du week-end de 8 à 10, des émissions axées sur l'actualité. Alors, si vous êtes dans le coin de Montréal, n'hésitez pas à aller justement sur la bande 99.5 et écouter notre collègue Rémi Villemur et tous les autres animateurs très compétents, notamment Mario Dumont le matin, Richard Martineau dans le retour, Benoît Dutrisac à 9h30 le matin. Très belle programmation 99.5 Montréal. On s'arrête un moment et par la suite, on revient avec l'essentiel de l'actualité avec Mathias Turcotte. Vous êtes sur les ondes de Boulevard 101, c'est Boulevard Against le matin. Boulevard 102.